frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Comme l'a déjà dit Adeline, mais je vais un petit peu le répéter quand même, le début de ce passage fait référence en fait à l'épître aux Romains et les premiers chapitres, Romains 1 à 11, qui ont précédé, où Paul développe le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, c'est tout ce qu'il a dit avant, écrit Paul au verset 1, alors cette bonté de Dieu, c'est le salut accompli en Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, ces 11 premiers chapitres de l'épître qui étaient consacrés, et dans la dernière partie, chapitre 12 à 15, le chapitre 16 de Romains étant des salutations, uniquement des salutations, tout un chapitre, l'apôtre évoque donc les conséquences plus pratiques de son enseignement. Et il invite ses lecteurs à répondre à l'amour de Dieu. Notre vie chrétienne est une réponse à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est premier et on y répond en y entrant et en se donnant nous-mêmes entièrement à Dieu. C'est là le culte que Dieu attend de nous, il est logique, hein, on pourrait traduire logique, effectivement, c'est là le culte raisonnable, parce que quand, je sais pas, quand quelqu'un vous fait un cadeau énorme, c'est assez naturel quand même d'avoir envie de le remercier. Des fois même, on veut même offrir aussi quelque chose pour remercier, c'est assez normal. Et le cadeau immense que Dieu nous a fait, eh bien, lui donner notre vie, c'est normal, c'est raisonnable, c'est logique. Naturel, on pourrait dire, de vouloir nous donner à Dieu parce qu'il nous a fait un cadeau encore plus grand. Certains ont traduit un culte conforme à la parole. Oui, logikos, on peut le traduire comme ça aussi. Plusieurs lectures possibles de ce passage. En tout cas, la formule souligne que le culte chrétien, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas limité au dimanche matin. Quand l'Église est rassemblée dans la prière et l'écoute de la Bible, le culte rendu à Dieu, c'est tous les jours de la semaine dans notre façon d'être et de vivre à la suite du Christ, dans notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Là où nous sommes placés chaque jour de la semaine, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela implique que si nous voulons rendre le culte qui convient à Dieu tous les jours de notre vie, il faut comprendre aussi alors du coup ce que Dieu attend de nous, quelle est sa volonté. Et nous trouvons alors le verset 2 sous la plume de l'apôtre Paul avec cette formule très riche. Ne soyez pas modelés par ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est une seule phrase, en trois parties. Les deux premières parties vont être en opposition, hein, ne soyez pas modelés, mais soyez transformés. Et la troisième partie souligne le but de tout cela. Pourquoi ne pas être modelé par le monde, mais être transformé par l'Esprit, afin de discerner la volonté de Dieu. Alors c'est un programme. Cet été, j'ai participé à la Convention de France Évangélisation, dans laquelle j'ai quelques engagements au sein du comité directeur. Et donc, lorsqu'on a cette convention, on prend le temps aussi d'écouter ceux qui ont le ministère d'évangéliste, le ministère de l'annonce de la parole, de l'évangile. Et on prend le temps de faire le point, etc. Et quand on fait le point, on peut dire des choses sur le passé, et puis souvent pour l'avenir, alors on a des projets peut-être, il y a beaucoup de points d'interrogation, on ne sait pas comment Dieu va nous conduire, et c'est la question du discernement. Discerner ce que Dieu veut parmi des fois plusieurs possibilités qui pourrait s'ouvrir à nous. Pas évident de discerner ce que Dieu attend concrètement. Quand demain je vais me retrouver sur mon lieu de travail, est-ce que le Seigneur attend quelque chose de moi particulièrement ? Pour cette année, je projette peut-être ceci ou cela. Est-ce que j'ai pris le temps aussi de discerner la volonté de Dieu ? Est-ce que je dois m'engager ici ou là ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Je ne suis pas là pour vous donner la leçon, moi je ne sais pas répondre à cette question. Hein. C'est une question hyper dure, hyper difficile, qu'on doit des fois être vraiment dans la prière pendant très longtemps pour arriver à être convaincu que le Seigneur nous montre une direction plutôt qu'une autre. Paul nous donne une piste, c'est en nous laissant progressivement transformer par l'Esprit de Dieu que nous discernerons de mieux en mieux la volonté de Dieu. Et ça me rassure de lire sous la plume de l'apôtre Paul que cette œuvre de Dieu n'est pas immédiate, ce n'est pas celui qui est tout juste né de nouveau qui sait discerner tout de suite, immédiatement, la volonté de Dieu. Cette œuvre s'inscrit dans le temps du discernement qui nous manque parfois, mais qui est en progrès si nous laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Dans les deux premières parties de la phrase, on trouve en grec des formes verbales qui sont même passives, utilisées quand on subit une action. C'est soit le monde qui nous modèle, on se laisse modeler soit par le monde, soit c'est Dieu et son Esprit qui nous transforme. Et si c'est Dieu qui nous transforme, alors nous devenons de plus en plus capables de discerner ce que Dieu veut. Si c'est le monde qui nous influence, alors peut-être que nous sommes moins capable, bien moins capable de discerner ce que Dieu attend. Donc premier point, ne pas être modelé par notre monde. Et si on n'y prend pas garde, on est modelé par le monde dans lequel on vit, pour le meilleur parfois et pour le pire souvent. On se laisse entraîner par la vague, les habitudes, les modes, les valeurs dominantes. Et le monde ici, c'est la société dans laquelle on vit, dans ce qu'elle a d'opposé à Dieu. C'est un terme qui est utilisé de façon négative ici. Mais c'est aussi le monde que Dieu a tant aimé. C'est le monde d'aujourd'hui, des fois en opposition au monde qui vient, le royaume de Dieu. Parfois d'ailleurs... Il peut y avoir des recoupements entre les deux. Il y a pas, c'est pas deux cercles qui n'ont aucune intersection. Il ne s'agit pas de vivre en ermite, de rejeter systématiquement, sans discernement justement, tout ce qui est du monde. Mais parfois, ils sont en opposition. Les chrétiens font facilement de la résistance sur certains sujets, en général les questions liées à l'éthique et à la sexualité, à la famille aussi. Mais on oublie d'exercer son discernement, quelquefois dans d'autres domaines, qui nous impactent pourtant. Par exemple, le rapport à l'argent, le rapport au confort, si présent dans notre société occidentale. Et ce sont d'ailleurs même des questions, quand on lit les évangiles, qui sont même plus présentes dans la bouche de Jésus et des enseignements de notre Seigneur que les questions sexuelles ou familiales. Combien de fois Jésus nous parle de l'argent et du rapport sain qu'on doit entretenir avec l'argent, et des fois ça passe par le don, donner. Je pense aussi à la pensée de plus en plus binaire qui marque notre société, induite par les réseaux sociaux. On a des débats qui sont d'ailleurs des affrontements souvent entre deux camps. Et alors, soit on est anti quelque chose, soit on va être pro quelque chose, quelle que soit la question. Et des fois, en tant que chrétien, on se laisse aussi influencer et on est dans un camp ou dans un autre. Et tout discours qui respecte une certaine nuance va devenir suspect. On va pouvoir être pas compris, ou ils vont dire « Ah, ben celui-là, il n'a pas d'avis, puisqu'il ne choisit pas son camp, ni les anti, ni les pro. » Ben ouais, on peut être des fois anti pour certaines raisons, puis pro pour d'autres, et puis c'est possible, certains mélanges, mais on nous force un petit peu à rentrer dans ces cases. À l'opposé, l'autre risque, Donc il faut se garder de ces mauvaises influences. Mais à l'opposé, l'autre risque serait de faire la sourde oreille à certaines évolutions de la société qui sont positives et qui vont, je pense, j'en suis même convaincu, dans le sens du royaume de Dieu. La place des femmes, longtemps méprisée, qui évolue dans notre société, qui est une bonne chose, le respect des minorités, la prise de conscience des violences domestiques, la conscience écologique, on en parlait aussi, tout cela sont de bonnes choses aussi, présentes dans notre société, qui vont dans le sens tout à fait chrétien du royaume de Dieu qui vient. Parfois, les chrétiens sont un peu à la traîne sur ces sujets. En réalité, la mise en garde de l'apôtre Paul n'est pas un appel à fuir le monde, à nous retirer dans notre église comme dans un bocal, ou à rejeter tout ce qui vient de notre société. C'est un appel à être vigilant et justement à l'exercice du discernement. Car nous sommes envoyés dans ce monde en tant que le disciple de Jésus, il est important donc de comprendre nos contemporains afin de leur communiquer l'évangile dans une langue qu'ils vont pouvoir comprendre. Si mon témoignage est bon, mais qu'il n'est pas compris, c'est comme s'il était mauvais, quelque part. C'est indifférent. Jésus disait déjà, en priant pour ses disciples, il disait « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais, de son influence. » L'apôtre Paul ne dit pas autre chose en appelant à ne pas être modelé par ce monde-ci. Restons connectés à notre monde, afin d'y être témoins sans nous laisser modeler par les choses qui s'opposent à Dieu dans notre monde. Deuxième point, être transformé dans notre intelligence. La deuxième partie de la phrase nous parle de la transformation de l'intelligence, et c'est un terme grec qui est traduit ici par intelligence, qui désigne l'intellect, la raison. Et le verbe traduit par transformer, c'est celui qui a donné en français métamorphoser. Donc, on comprend que l'exhortation de Paul à se laisser transformer dans notre intelligence ne concerne pas seulement quelques petits ajustements mineurs qu'il faudrait faire dans notre façon de réfléchir et de penser, mais une véritable métamorphose de notre intelligence, un changement radical de regard sur la vie, soi-même, le monde. Et c'est ce bouleversement que provoque la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La foi ne nous rend pas irrationnels ou naïfs, je l'espère en tout cas. Croire, ce n'est pas mettre son intelligence en sourdine, mais c'est avoir une intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit qui habite le croyant, qui renouvelle l'intelligence, qui la métamorphose. Et nous devons donc, cette intelligence que nous avons et qui est renouvelée par le Saint-Esprit, l'utiliser. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu dit. On a cette intelligence renouvelée. Ça devrait être comme ça. Des fois, on peut avoir l'impression quand même que les croyants perdent leur bon sens, qu'ils sont des fois plus crédules que croyants. Ils accueillent sans esprit critique tout ce qu'on peut trouver, par exemple, sur YouTube ou sur Instagram, ou en laissant tomber tout raisonnement quand il s'agit de faire des choix et de connaître la volonté de Dieu. Des chrétiens aussi, certains chrétiens pourraient s'en remettre uniquement à des signes ou des illuminations hypothétiques. Le Seigneur, dans notre cœur, renouvelle notre intelligence pour que nous devenions capables de discerner ce que Dieu veut et ne pas nous laisser modeler, influencer par les choses dans ce monde qui s'opposent à lui. Discerner la volonté de Dieu, c'est le but de la métamorphose de notre intelligence, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Car lorsqu'il s'agit de comprendre ce que Dieu veut pour nous, Paul ne fait pas appel ici à une révélation surnaturelle ou une illumination personnelle, il fait appel à notre intelligence renouvelée. Il s'agit de discerner avec notre intelligence ce que Dieu veut. Et je ne dis pas que nous n'avons pas à prier pour discerner la volonté de Dieu, mais sans doute, il convient de demander d'abord à Dieu la sagesse pour faire un bon usage de notre discernement, plutôt que de lui demander une révélation ou un signe. Je ne dis pas que Dieu ne le fait jamais. On a même des passages dans la Bible où des gens demandent un signe à Dieu et Dieu, dans sa bonté, donne un signe. Mais nous sommes plutôt appelés à marcher par la foi. Et le Saint-Esprit ne veut pas nous dire « voilà ce que tu vas faire exactement, demain je vais t'écrire ton emploi du temps sur ton Google Agenda ». Il veut, avec nous, qu'on construise notre vie. Et il va nous conduire par la foi. Alors pour nous aider à nous poser les bonnes questions pour notre discernement, l'apôtre associe à la volonté de Dieu trois qualificatifs. C'est quoi cette volonté de Dieu que des fois on cherche ? Ben c'est ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Alors qu'est-ce qui est bien ? Eh bien c'est Dieu qui détermine ce qui est bien ou mal. Le péché, dès les premières pages de la Bible, c'est vouloir se passer de Dieu pour déterminer sans lui ce qui est bon et mauvais. Et notre ressource, du coup, en la matière, pour savoir ce qui est bien, c'est la volonté révélée de Dieu, telle que nous la trouvons dans sa parole, la Bible. Pas dans tel ou tel verset sorti de son contexte, évidemment, mais dans l'ensemble du message biblique. Approfondir notre connaissance de la Bible, c'est approfondir notre connaissance de la volonté de Dieu, et nous en avons besoin lorsque nous devons faire des choix, prendre les bonnes décisions dans notre vie. Deuxième chose, qu'est-ce qui est agréable à Dieu ? C'est ce qui va approuver, ce qui procure à l'être suprême, à Dieu lui-même, de la joie et du plaisir. Et on est là, évidemment, dans ce qui prolonge ce qui est bien. Ce qui est bien est agréable à Dieu, lui procure de la joie. Dieu se réjouit lorsqu'il voit ses créatures agir conformément à sa volonté révélée dans sa parole. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, et même ce que je pense, plaît, fait plaisir à Dieu ? Et maintenant, qu'est-ce qui est parfait ? Ce qui est bon, bien, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est parfait ? Alors ça, c'est un mot qui peut nous faire peur. La perfection, c'est même des fois, sous un certain aspect, quelque chose de négatif. Et qu'il ne faut pas forcément rechercher en tant que tel. La perfection, c'est quand même difficile à atteindre. Mais la perfection, il me semble, au sens biblique, est une notion qui n'est pas statique. C'est-à-dire qu'on l'atteindra en fait jamais. C'est plutôt quelque chose de dynamique. La perfection, pour nous, c'est moins une ligne d'arrivée qu'un horizon vers lequel on avance. Ce qui est parfait, c'est ce qui nous fait progresser. C'est ce qui nous fait avancer vers Dieu. Ce qui nous fait grandir spirituellement et en maturité, ce qui nous fait avancer, comme on le dit quelquefois, sur le chemin de la sainteté, de la sanctification. C'est cela qui est parfait. Ce n'est pas les perfections qui peuvent nous rendre malades si on est perfectionniste, par exemple. Ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait marcher dans la direction de Dieu. Alors, quand il est question pour nous de discerner la volonté de Dieu face à un choix ou une question importante, on peut prendre un peu de recul et se poser les questions suivantes. Est-ce bien ? Donc, est-ce conforme à la volonté que Dieu révèle dans sa parole ? Est-ce agréable à Dieu ? Est-ce que je fais ? Est-ce que ce que je fais, ce que je projette de faire, fait plaisir à Dieu ? Est-ce parfait ? Est-ce que ça me fait avancer, progresser avec Dieu ? Ou est-ce que ça fait progresser mon prochain vers Dieu ? Si on peut répondre oui à ces trois questions, il y a toutes les chances que ce soit bien la volonté de Dieu. Alors n'attendons pas forcément je ne sais quelle révélation ou quelle confirmation pour le faire ou pour continuer à le faire. Conclusion, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans notre vie nous ouvre des perspectives. Nous sommes appelés à voir le monde, les autres, nous-mêmes, la vie de façon tout à fait nouvelle. Et c'est vrai, tout au long de notre vie chrétienne, on n'y est jamais arrivé complètement, car Dieu poursuit son œuvre de transformation pour nous rendre capables de mieux discerner sa volonté, mieux le connaître, et mieux discerner sa volonté pour avoir une vie qui soit belle et bonne, qui lui soit agréable, qui nous fasse avancer vers l'horizon de notre espérance. Cela jusqu'au jour où notre métamorphose sera complète, au jour de la résurrection finale et de l'établissement d'une création totalement renouvelée. Amen.